Vous écoutez
RMC.
RMC Football Show.
Timothée Mémon.
Bonsoir à tous, il est 20h, vous êtes sur RMC, c'est le RMC Football Show. On va évidemment dérouler à l'actualité football du jour et celle d'actualité football en France. C'est le match entre Brest et le Paris Saint-Germain, match de la troisième journée de Ligue 1, match d'ouverture. Ce sera commenté tout à l'heure à 21h par Jean Rességuier et Xavier Grimaud. C'est évidemment à suivre sur RMC, ils sont en direct au stade Francis Leblé. On sera avec eux dans un instant. Dans l'avant-match, on va détailler les compos, se demander ce qu'il faut attendre de cette saison brestoise, parler de l'effet Paris Saint-Germain à l'extérieur, parce qu'il y en aura un cette saison, peut-être encore plus que les saisons précédentes. À 21h, le match évidemment. Et puis après le match, le RMC Football Show deviendra l'after où l'on débriefera cette première rencontre de la troisième journée de Ligue 1. On parlera de l'interview accordée ce matin par Didier Deschamps à l'équipe du Mercato. Bref, supporters brestois, supporters de Paris, on vous attend au 32-16. Dès maintenant, pour l'avant-match, vous pouvez également réagir sur Direct Studio. Pour m'accompagner ce soir, Kevin Diaz et Frédéric Piquion. Bonsoir messieurs.
Salut à tous.
Bonsoir à tous.
Prêt pour une journée à 35 buts?
On espère en tout cas.
Comment vous l'expliquez, tiens là, rapidement, petite fausse ouverture, comment vous l'expliquez? C'est uniquement le retour du public qui donne des ailes un petit peu aux joueurs? C'est quoi là, ces deux premières journées très prolifiques en buts?
Non, on peut pas dire que c'est uniquement le retour du public, même si clairement je pense que au moins pour une bonne moitié ça joue, hein, parce que on a vu de magnifiques ambiances dans ce mois d'août. Je pense que les joueurs comme nous, consultants, quand on commente un match, on le sait, hein, c'est une lapalissade de le dire, mais avec le public, Fred, moi, quand t'es jusque commentateur, alors j'imagine nous on n'a pas connu hein, une saison de huis clos, et peu importe que tu joues devant 5, 10, 15, 20, 30, dès qu'il y a du public, c'est toujours beaucoup plus intenses. Et aussi il y a les mentalités qui changent peut-être un peu. On a vu quand même des recrutements très intéressants dans beaucoup de clubs avec peu de moyens. On a l'impression que les clubs français tentent et arrivent enfin à se réinventer, en tout cas pour certains. Et les entraîneurs quand même, quand tu vois qui est sur les bancs aujourd'hui, que ce soit les Français, Baticle, ouais. Bon, Stéphane, ça a encore un peu de mal à prendre, mais il a un calendrier compliqué, mais que ce soit Batles, Gastien à Clermont et les entraîneurs étrangers. Ah, franchement, on a quand même l'impression qu'il y a un renouvellement. On espère que ça va continuer.
Et puis c'est surtout le début de saison, c'est l'enthousiasme. On a envie aussi de prouver, parce qu'on est toujours dans une période de mercato. Il faut pas oublier ça non plus. C'est-à-dire que les joueurs sont susceptibles de partir à n'importe quel moment. On est dans une période où c'est compliqué pour les clubs. Ils ont besoin d'argent. Imaginons qu'il y a un attaquant qui brille dans les derniers jours ou même sur les 4-5 matchs qu'il y a au mois d'août. Eh ben, ça peut toujours être bénéfique pour le club, lui, s'il doit partir. Et donc pour moi aussi, c'est tout est réuni en tout cas pour que la saison démarre bien. Et c'est vrai que la première journée, déjà, on a vu des super matchs. On voit des super matchs. Deux, on voit des buts. Donc on espère vraiment que ça va durer toute la saison.
Souvenez-vous là, quand le football avait repris en période Covid, c'est en Allemagne que ça s'était passé en premier, à Dortmund notamment. On avait vu des matchs voilà, très rigoureux sur le plan tactique, avec des joueurs qui prenaient peut-être un peu moins de risques. Est-ce que le fait d'avoir du public, de pas entendre le coach, ça permet peut-être de s'affranchir un peu des consignes pour certains joueurs et aller d'oublier un petit peu le travail défensif, d'y aller un peu à volo?
Ça dépend d'un placé et ça dépend quel coach non plus. Hein. Parce que je peux vous dire que quand on a Claude Puel sur un côté et qu'on joue sur le côté de Claude Puel, on peut avoir 100 000 personnes à côté, on l'entend quand même. Mais peut-être oui, c'était pas évident. Moi j'ai déjà fait des matchs à huis clos. C'est clair que sur le plan tactique et même sur le niveau de la communication, c'est tout autre chose. Quand on a le public, on n'entend pas forcément tout ce qui peut se dire et on est vraiment concentré sur le match. Maintenant, est-ce que c'est ça qui a fait que les matchs étaient un peu plus serrés, un peu moins intenses? Et encore, je dis moins intenses, mais on a vu quand même des matchs assez intenses sur quelques confrontations. Donc non, je pense que vraiment. Vraiment, cette histoire de Covid, elle nous a fait mal parce que ce public nous a énormément manqué. Mais quand on revoit toutes ces premières journées, ces Coupes d'Europe avec le public qui est revenu dans les stades, même l'Euro, ça a été magique. Donc ça, c'était vraiment bien pour le public.
Kevin, toi qui as joué dans deux types d'ambiance, dans des divisions un peu plus basses avec moins de public, et puis aussi aux Pays-Bas où il y avait beaucoup d'ambiance, tu l'as senti cette différence? Tu te sens, c'est toujours délicat pour ceux qui ont jamais joué devant 30 000 personnes de se faire une idée précise de ce que ça provoque.
Mais en fait, dès qu'il y a du public, c'est impossible, comme tu dis, de gérer. surtout quand tu joues à domicile, c'est pas possible. Quand tu joues à Saint-Etienne ou que tu joues à Rotterdam ou au Brésil
ou à Rio,
quand tu as le ballon, ce sentiment d'être poussé par le public, d'être poussé par tes supporters, tu sais, des fois même tu mènes 2-0, mais le public, tu sais, le petit cri de, il faut frapper, tu sais, de t'entends presque les gens te dire de frapper, toutes ces petits trucs, tu remontes un ballon, t'es latéral, bah t'entends la ferveur qui te, donc forcément ça, ce sera jamais comparable avec un match à huis clos. Et donc comme tu dis, il y a beaucoup moins de gestion parce que les joueurs, ça leur a manqué, parce que les joueurs, comme dit Fred, c'est le début de saison, ils sont frais, ils ont envie. Maintenant moi je regardais là l'instant les expected goals, c'est les équipes qui ont procuré, on va dire, qui se sont procurés.
Les expected goals.
Ouais. Non, mais c'est toujours intéressant de voir, tu vois. Et ouais. D'ailleurs, Timothée, je vais en parler parce que Timothée va être agréablement surpris. Bon, en premier, en termes d'équipe qui a été vraiment, en termes d'occasion, on rappelle quand même ce que c'est pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas les expected goals. En gros, c'est le nombre de fois où dans un match, l'équipe est en position de marquer et que dans l'historique du football, le joueur à l'instant T aurait marqué ou a une grande chance de marquer.
Combien de fois une équipe aurait dû marquer au regard du nombre d'occasions qu'elle s'est procurée.
Voilà. Et aussi, en fonction de l'endroit où il est dans la surface, est-ce que c'est vraiment une frappe qui doit rentrer, quoi, en gros. Et en premier, t'as quand même Clermont, donc c'est pas une surprise, vu le début de saison, avec deux victoires, avec un jeu qui était quand même très intéressant. Ensuite, t'as Lens, qui est toujours une équipe qui produit du jeu, qui va vers l'avant. Ensuite, t'as le Paris Saint-Germain, bon, ça c'est pas une surprise.
Logique.
Et juste derrière, t'as Saint-Etienne et Marseille, avec Nice et Monaco. Donc en fait, c'est assez logique. C'est assez logique. Et dans les moins bonnes équipes, bah t'as Strasbourg et Bordeaux, ce qui est aussi assez logique.
Logique,
ouais. Donc après, ça fait que deux journées. Alors certains disent que c'est des statistiques et bien sûr, c'est pas ça qui va nous faire analyser le début de cette Ligue 1. Mais on retrouve en tout cas en chiffres les équipes qui nous ont fait plaisir et les équipes qui pour l'instant sont un peu décevantes. Et
Jérémy Janot réglait tout le monde en disant les statistiques, c'est comme les bikinis, ça montre beaucoup de choses, mais pas l'essentiel. On va aller du côté du Stade Francis Leblé. C'est difficile de faire une transition. Janot essayez. Xavier Grimaud, vous êtes là pour nous commenter le match. Vous êtes à Francis Leblé. Bonsoir, messieurs.
Bonsoir, messieurs.
Au moins, ça t'a fait rire.
Bravo, Timothée.
Oui, j'aurais voulu être un artiste, tu le sais bien. Messieurs, vous avez les compositions des deux équipes. On va commencer avec celle du Stade Brestois. Il y a une petite surprise dans celle de Paris.
Oui, il y a aucune surprise en revanche dans celle de Brest. Il y a pas de défense à 5. Voilà, il y a continuité pour Michel Derzakarian avec Marco Bizot, le Néerlandais, dans les buts. Pierre Gabriel, Brendan Chardonnay, Lilian Brassier et Jere Uronen, le Finlandais qui était sorti un peu blessé face à Rennes, mais il peut tenir sa place sur le côté gauche. Le retour important d'Arif Belkebla au milieu de terrain avec Yangui Mbok. Honora sur l'aile droite, Fèvre en soutien de l'attaquant qui sera Mounier et Cardona sur l'aile gauche.
Pour le Paris Saint-Germain, on était tous en train de dire l'interrogation, c'est le gardien de but. C'est là la véritable interrogation ce soir. Navas ou Donnarumma de retour dans le groupe. Ce sera Navas qui va être titulaire. Donnarumma sera sur le banc des remplaçants. Le retour de Marquinhos, quand on a vu certains errements défensifs sur le match à 3, sur le match contre Strasbourg au Parc des Princes, on a dit bonne idée, Marquinhos de retour, ça va rassurer Pochettino. Non, Kerrer et Kimpembe vont être alignés tous les deux encore en charnière centrale, avec Hakimi côté droit, avec Diallo côté gauche. Verratti, on se posait la question, est-ce qu'il va pas être un peu court pour débuter la rencontre? Eh bien non, il va débuter le match, Verratti. Alors est-ce qu'il sera en pointe haute plutôt avec Gueye juste derrière lui et Wijnaldum à droite et Herrera à gauche? Ça pourrait ressembler à ça, et à ce moment-là avec deux attaquants, Icardi et Mbappé, puisque même Di Maria sera lui aussi sur le banc des remplaçants. Voilà pour les choix de Pochettino. Quand on évoquait tout à l'heure le fait que cette équipe du Paris Saint-Germain, malgré les retours de joueurs comme Di Maria, comme Marquinhos, comme Verratti, restait tout de même dans une période de rodage, on en a bel et bien la confirmation ce soir.
Kevin, tu la décomposerais comment, cette composition du Paris Saint-Germain? Un 4-4-2 comme l'évoquait possiblement Janot?
Ouais. Moi j'étais plutôt sur un 4-2. Ouais, non. Ouais, 4-4-2. Si t'as raison.
C'est ce que j'avais compris dans ton explication.
Non, mais j'hésite au positionnement de Verratti, voilà, c'est tout.
Verratti qui pourrait jouer comment, en 10, tu veux dire?
Derrière Icardi et Mbappé, comme aimé faire jouer Pochettino. Ouais, c'est
le 4-4 de losange.
Ouais, c'est ça.
Avec l'assurance qu'il a Gueye derrière lui et qu'il n'aura pas à remplir non plus un rôle défensif parce que justement il est de retour à la compétition. Mais bon, c'est une interprétation personnelle.
Oui, non, non, mais je pense qu'en effet, quand tu vois 4 milieux de terrain comme ça de formation dans cette équipe du Paris Saint-Germain, tu peux te dire que ça va être un 4-4-2 en losange avec, notamment, après, faudra voir comment ça coulisse, mais ça peut être aussi un 3-5-2 avec un Hakimi qui passerait dans le couloir droit quand l'équipe a le ballon. Ouais. Après, je ne sais pas quel est le milieu de terrain du Paris Saint-Germain qui prendrait dans ce cas-là le couloir gauche puisque Diallo s'alignerait plutôt avec les trois défenseurs. Et à gauche, on peut voir, il l'avait fait, Wijnaldum, sur 20 minutes.
Ou Herrera, qui a parfois été désaxé aussi.
Ouais, mais Wijnaldum l'avait fait un peu à trois. C'était pas très clair, mais en effet, il avait dépanné un peu. Ça peut, avec le ballon, en effet, être une possibilité pour cette équipe du Paris Saint-Germain.
Est-ce que un 4-2-3-1, ça peut être aussi une possibilité avec les quatre de derrière, les deux au milieu de terrain? Peut-être Herrera aussi qui peut peut-être jouer à droite avec Mbappé sur la gauche.
Sur la gauche, ouais.
Et puis Verratti en 10. Et avec Icardi en 10, je suis pas sûr, mais bon, ça peut être aussi une solution quand l'équipe aussi a le ballon. On sait pas trop.
On verra ça à l'entame de ce match qui a donc lieu à Francis Leblay. Messieurs, un mot sur l'ambiance, sur la météo, sur ce à quoi il faut s'attendre pour ce match.
Est-ce qu'il y a des maillots du PSG dans le...
J'en ai vu, moi, cet après-midi en ville. Hein. Je te le confirme tout de suite. Hein. J'en ai vu. C'était très, très discret parce que le préfet avait dit qu'il ne voulait pas entre midi et 19h30 la présence de maillots du Paris Saint-Germain en ville. Il y a quand même 500 supporters parisiens qui ont fait le déplacement, géré dans le cadre de ce match de la troisième journée de Ligue 1. Mais on en a vu quelques maillots. Faut pas non plus tomber dans un délire total. Quoi.
Mais sinon, l'ambiance, elle sera belle. Le stade sera à guichet fermé. À guichet fermé depuis bien longtemps. Vous avez suivi les billets qui ont été mis à la revente une fois que Messi a signé au Paris Saint-Germain.
Mais non,
on a vu des billets jusqu'à 400 euros dans la tribune où on se trouve.
C'est pas vrai.
Ouais, des billets en plus, pour la petite histoire, Fred, des billets revendus par un abonné en l'occurrence. On voit pas son nom sur l'annonce, mais apparemment on voit son numéro d'abonné. Donc pas mal de supporters pour le club. Bah, vous avez toutes les infos pour lui supprimer son abonnement pour toute la saison. Bon, je pense pas que le club le fera. Je sais pas surtout s'il a réussi à vendre son billet.
Tu sais qu'au Paris Saint-Germain, il y a carrément une plateforme qui permet aux abonnés de revendre leur billet. Donc, c'est pas non plus interdit de revendre ton billet. Imaginons que cet abonné, ils sont en vacances.
Ce qui est interdit, c'est le marché noir. C'est de le revendre au noir, tout simplement.
Oui. Non, mais je dis qu'il y a quand même des possibilités.
Il y a des plateformes. Tu conserves la valeur faciale.
Si l'abonné est en vacances, il peut quand même vendre son billet.
Oui, bien sûr.
Il a envie d'aller au stade.
Oui, bien sûr.
En tout cas, c'est le cas là, mais.
En tout cas, donc le stade sera plein, donc ça fera quasiment 16 000 spectateurs. Le temps, il est plutôt bon, hein. Jeannot, c'est un petit peu couvert, mais il fait bon.
On voit des doudounes dans les tribunes.
C'est vrai.
Non, pas du tout.
On voit les manteaux, doudounes, capuches. On voit des t-shirts aussi. Et parapluies aussi.
Il n'y a pas besoin de parapluies, il n'y a pas besoin de doudounes. Et on a toujours vu sur la mer, donc écoutez, on est bien, hein. on est bien ici.
Vu sur la mer et sur le pénalty. Nous, on revient dans un instant.
Oui, et pas sur le poteau de corner à droite, celui-là, tu l'oublies.
Oui, ça je sais. C'est vrai qu'on ne le voit pas. Par contre, le pénalty là, qui est juste derrière la tribune,
on le voit
à peu près. En tout cas, on voit la fumée des saucisses en train de monter.
Les galettes saucisses.
C'est le plaisir de Francis Leblay.
Il
n'y
a pas de galettes saucisses ici.
Il n'y a pas de galettes saucisses à Brest même. Pas à Brest même.
Ça s'arrête à Guingamp.
J'en ai vu tout à l'heure.
Mais pas au sein du stade en tout cas.
À l'extérieur du stade.
C'est un food truck.
Je suis pas fou. Non, j'ai vu des galettes saucisses en arrivant au stade.
Ils en ont fait pour toi, Jeannot.
Attention. J'ai vu.
On revient dans un instant dans le RMC Football Show pour continuer à décrypter cet avant-match. À tout de suite.
RMC Football Show. Dis-moi tes mémons.
De retour dans le RMC Football Show. Vous le savez, dans 47 minutes, c'est le début de la troisième journée de Ligue 1 avec le match entre Brest et le Paris Saint-Germain. Jeannot Rességuier est toujours avec nous. On va parler du PSG, Jeannot, avec Kevin Diaz, avec Fred Picken qui sont avec moi. Messieurs, on a vu un Paris Saint-Germain remporter ses deux premières rencontres avec une équipe bis, une équipe terre, une équipe du Paris Saint-Germain qui a fait le boulot. Là où peut-être la saison dernière, cette équipe s'oubliait un petit peu parfois. On rappelle que l'année dernière, le PSG avait subi pas moins de 8 défaites en championnat. Est-ce que vous avez l'impression que ce Paris Saint-Germain-là, c'est un peu tôt pour le dire, mais au regard des premières prestations, alors que les concurrents directs ont perdu des points, hein, Lille par exemple, champion en titre, c'est le cas de Monaco qui a perdu des points, de Marseille qui a perdu 2 points lors du week-end dernier, bref, le Paris Saint-Germain a le mérite pour l'instant d'avoir fait 6-6. Est-ce que vous avez l'impression que ce PSG est un petit peu à l'abri de ses errements de la saison dernière ?
Il y a eu des interrogations, surtout pour les retours des internationaux. Est-ce que les joueurs qui étaient déjà là depuis le début de saison, qu'on fait toute la préparation, est-ce qu'ils allaient assurer aussi sur le début de championnat? Donc pour l'instant, on peut dire que oui, puisqu'ils ont 6 points sur 6, et que malgré le jeu qui n'est pas flamboyant au Paris Saint-Germain, ils prennent les points qu'il faut. Ils prennent les points pour que, justement, pour mettre à l'aise, entre guillemets, les internationaux, quand ils vont revenir dans l'équipe, ils auront déjà les points nécessaires. Je dirais pas, il faut pas qu'ils aient la pression, mais en tout cas, le Paris Saint-Germain est dans l'obligation de gagner le championnat cette saison. Ça, c'est au moins le minimum, voire la Coupe nationale. Et après, on verra pour la Ligue des Champions. Mais sur ce début de championnat, en tout cas, ils ont fait le boulot.
Kevin, justement, c'est important pour ces joueurs qui, allez, font un peu rustine en attendant l'arrivée des grandes stars, de dire, bah voilà, nous, quand on est là, on fait 6 points sur 6, on fait 9 sur 9 s'ils s'imposent ce soir, pour dire, voilà, on est présent et on compte dans cet effectif.
Exactement. Après, quand tu regardes les deux premiers matchs, il faut voir aussi qui a été prépondérant. Et j'ai vraiment l'impression que Hakimi, qui est le joueur qui a été acheté 70 millions, on va dire la seule recrue pécuniaire, hein, sans parler des primes à la signature, mais on voit clairement que ça a été une plus-value tout de suite. Ça, c'est pas facile quand même pour une recrue quand t'arrives au Paris Saint-Germain avec un gros transfert. Il y en a qui ont mis du temps à s'adapter, etc. Lui, dès le premier match à 3, on a vu, d'ailleurs, dès les matchs de préparation, les matchs de préparation à Orléans, là, on l'a vu tout de suite marqué, on l'a vu vraiment bien animer son couloir. Et donc, ça joue. Wijnaldum n'a pas été exceptionnel, mais Wijnaldum n'est pas un joueur qui va être exceptionnel.
Il va pas être éblouissant, finalement.
Voilà, c'est un mec qui met de l'huile dans les rouages, c'est un mec qui va faire son boulot, c'est un mec qui est professionnel. C'est un mec qui va faire son travail. Il va peut-être pas faire ce qu'il fait avec la sélection, où il est vraiment le numéro 10, il touche beaucoup de ballons, il fait des crochets, des passements de jambes, des talonnades. Non, là, il va jouer pour l'équipe. Et c'est vraiment ce que le Paris Saint-Germain a besoin. Donc, comme tu as dit, on peut dire que pour l'instant, les 2-3 titulaires qui étaient présents ont fait le travail. Navas a été plutôt bon. Kimpembe a eu quelques sauts de concentration, mais il a été quand même assez intéressant. Et pour l'instant, les seconds couteaux ont fait le travail.
Jeannot sur Hakimi ?
Moi, je trouve qu'il a surtout été intéressant dans le fait qu'il y a eu un enchaînement des deux matchs déjà de championnat où il a été aussi bon, quoi. Où il a apporté quelque chose. Après, il a peut-être baissé le ton, mais c'est celui qu'on a le plus remarqué depuis le début du championnat sur les deux premiers matchs. Wijnaldum. Bon, oui. Après, c'est pas quelqu'un qui va être important dans le système de jeu, dans ce qui se voit. En revanche, dans ce qui se voit moins et dans la récupération du ballon, dans la relance, c'est là où il va être intéressant. Mais on ne pourra finalement le juger que quand l'équipe sera vraiment au complet. Parce que je pense que des garçons comme Herrera, comme Gueye vont disparaître petit à petit de l'organisation d'une équipe titulaire du Paris Saint-Germain, que l'on verra peut-être d'ailleurs plus, à mon sens, en Ligue des Champions qu'en Ligue 1, la véritable grosse équipe du Paris Saint-Germain, en attendant bien sûr le tirage au sort de jeudi prochain. Après, il y en a un qui s'il doit rester doit montrer autre chose, même s'il a marqué lors de la première et la deuxième journée, c'est Icardi. Il est encore un petit peu trop en dedans, quoi, par rapport à ce qu'il a montré par le passé, quoi.
Ouais, mais Icardi, tu vas pas lui demander de faire le jeu, comme on le sait, hein.
Rappelle-toi sur Strasbourg, rappelle-toi sur Troyes, il y a eu des ballons où on aurait aimé le voir dans la surface. Oui, on aurait aimé le voir dans cette situation-là de véritable numéro 9, puisque c'est là qu'il est bon, c'est là qu'il excelle. Et malheureusement, dans son déplacement ou dans son positionnement, et tu sais de quoi on parle quand on parle d'attaquant, Fred, il n'est pas vraiment toujours bien placé, quoi.
Mais est-ce qu'il n'avait pas en tête aussi peut-être de quitter le Paris Saint-Germain?
Mais je pense qu'il l'a toujours en tête.
Et je pense qu'il l'a toujours, c'est vrai, mais là, tu sais, la semaine prochaine, on est déjà après le 1er septembre. Il n'y a pas forcément une offre qui va arriver, peut-être, hein, peut-être dans la semaine. Hein. Mais en tout cas, Icardi quitter le Paris Saint-Germain, ça va coûter très cher à l'équipe qui va le prendre.
Bon, on est d'accord, hein, de toute façon, Jeannot, hein, sur nos amis Hakimi et Wijnaldum. Et concernant Icardi, bah, comme dit Fred, de toute façon, malheureusement, c'est un bon joueur de foot, il n'y a pas de problème. Mais il nous manque quelque chose en termes d'activité quand même. Activité, et ça, j'ai vraiment pas l'impression qu'il en soit conscient ou qu'il ait envie de le changer. Bah, c'est un joueur de surface et il a vraiment envie que de jouer dans la surface.
T'as personne derrière dans ce rôle-là.
Donc ils recruteront pas.
Non, t'as personne.
Donc le numéro 9, ce sera Kylian Mbappé.
Pour l'instant, t'as Arnaud Kalimuendo qui est un avant-centre. Je ne dis pas qu'il arrive à la cheville de Icardi en termes d'expérience ou même en termes de qualité, mais c'est vrai que t'as Icardi derrière, t'as le petit parisien qui a fait quand même des choses sympas avec Lens, et t'as la solution Kylian Mbappé, voire Messi en fond neuf. Il y a quand même des armes
sur le banc du Paris Saint-Germain.
Il y a des options pour de différents systèmes, mais un numéro 9 comme Icardi, tu l'as pas au PSG.
Il n'y en a pas deux. Effectivement. Étienne est supporter du Paris Saint-Germain. Il nous a appelé au 32-16. Salut Étienne.
Salut l'équipe, comment ça va?
Ça va et toi Etienne?
Ça va. Hein. En vacances, hein, il faut. Hein.
Profite pour nous parce que nous, on bosse. Mais bon, hein, on a un boulot sympa. On va regarder le match avec toi, avec les commentaires de Jeannot, de Xavier, tranquille. Qu'est-ce que tu penses de cette compo?
Moi, franchement, je suis plutôt confiant parce que j'ai envie de dire qu'au Paris Saint-Germain, il y a moyen de mettre trois équipes différentes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a une équipe pour, on va dire, ceux qui sont en dessous de la 10e place. Et on peut mettre une autre équipe pour ceux qui sont dans les 3, 4, 5 premières du classement et une équipe pour la Champions League. Donc franchement, moi, avec Icardi, avec Mbappé, franchement, je suis tout à fait confiant et je pense vraiment que ça va le faire et on ne fera pas l'erreur qu'on a fait l'année dernière, c'est-à-dire de rater nos premiers matchs. Et c'est ça qui nous a mis le titre à la malle, quoi, en fait. C'est à cause de ça et je pense que...
Il n'y a pas eu que ça, hein. C'est pas que le début de saison.
Il n'y a pas que ça, mais ce début de saison, il est quand même important psychologiquement pour faire vraiment une bonne entame de match. Et je pense que c'est très important. En fait, on a envie de montrer au public, on a envie aussi de montrer à Messi et tout, qu'on a une bonne équipe, qu'on est capable de jouer le championnat, la Champions League, tout. Et c'est ce début de saison qui est important pour moi. Oui. Et là, faut pas le louper. Et on a les joueurs pour, mais même s'il n'y a pas Neymar, même s'il n'y a pas Messi, on a les joueurs pour aller gagner n'importe où, en fait.
Non, mais je suis d'accord avec toi, Étienne, sur le fond. Mais attention quand même à la forme. Quand tu dis, oui, on peut avoir trois équipes, une pour la deuxième partie de classement, une pour les top Ligue 1 et une pour la Ligue des Champions. Mais tu sais que, tu sais qu'on est d'accord que pour gagner la Ligue des Champions, c'est quand même l'objectif ultime et prioritaire du Paris Saint-Germain avec le titre de champion de France qu'il faut pas décoter. Mais il faut quand même avoir un minimum d'automatisme. Et c'est pas sur les 7 matchs de Ligue des Champions que tu vas te créer des automatismes. Je te parle des 6 matchs de poule et le match de 8e où bon. Ouais. Il faut quand même aussi en championnat que cette équipe, elle se construise. Alors pour l'instant, tous ne sont pas disponibles. Mais bon.
Oui. Mais je veux dire, c'est si jamais un jour on a des blessés, si jamais on n'a pas Neymar, on n'a pas Mbappé, on n'a pas Messi.
Mais c'est quoi ton équipe à toi? Ton équipe, si tout le monde est disponible, rapidement, c'est quoi?
Moi, je mettrais soit Neymar,
Prends du gardien, Étienne. Prends du gardien, prends ton temps.
Moi, j'ai envie de dire.
Tu vois, bon,
c'est dur, c'est dur, le tien d'entraîneur.
C'était 10 secondes, là, déjà.
Voilà, franchement, je l'aime bien. Franchement, j'ai vu ce qu'il a fait et franchement, c'était mortel. Mais bon, Navas, pour moi, quand même, il y a de mieux. Voilà, Navas. Après, je sais que on va avoir en défense, on va avoir Marquinhos. Pour moi, c'est la base.
Ouais.
On va mettre.
C'est pas si facile, hein.
Parce que ça. Non, mais en fait, c'est pas simple. J'avoue, franchement, c'est pas simple. C'est vraiment
Laisse tomber, De toute façon, on la verra que dans un mois et demi. Étienne, on la verra que dans un mois et demi, cette équipe-là. Mais en effet, c'était juste pour te dire ça. Je te demandais ça parce que, franchement, c'est pas facile.
Non, c'est vrai que c'est pas simple. Et franchement, j'aimerais pas être à la place de l'entraîneur parce que ça va être très compliqué. Et surtout, il a intérêt vraiment à être costaud psychologiquement, mentalement, parce que ça va être dur pour lui.
Ce qui est important, c'est les joueurs de rotation, comme on l'a dit. Et là, ils sont en train de faire le boulot. Ils vont aussi le faire peut-être sur les matchs qui sont avant la Ligue des Champions, comme beaucoup de coachs aussi aiment faire sur la rotation du match d'avant. C'est-à-dire
où tu verras
peut-être pas un Messi, où tu verras peut-être pas un Ramos parce qu'ils ont quand même un certain âge. Et que quelquefois il faut aussi garder peut-être un Verratti qui soit vraiment très très bon sur la Ligue des Champions. Donc voilà, ça fait déjà quand même 4-5.
Mais Verratti, il peut être très bon comme il peut être très mauvais, c'est ça le problème. Mais bon.
Je trouve qu'il insuffle pas au reste de ses coéquipiers beaucoup de sérénité. Ça s'est vu lors de la demi-finale et lors d'autres matchs. Je vous propose d'écouter Mauricio Pochettino. Oui, il y a déjà un hater en équipe, c'est ça. Non, c'est bon, je laisse.
Verratti, c'est pas qu'il peut être très bon ou très mauvais, c'est qu'il peut être très bon ou très absent.
Ouais, exact. Je vous propose d'écouter Mauricio Pochettino justement sur cet effectif. On parlait du fait qu'il n'y ait qu'un véritable numéro 9. Est-ce qu'il souhaite encore voir arriver un joueur? Et on réagira avec Étienne juste après.
On sait que dans le football, il peut tout se passer, il peut y avoir des retournements de situation. Un club comme Paris est toujours ouvert pour améliorer son effectif. Si je voulais certains joueurs en particulier, je ne vous le dirais pas. Je le dirais d'abord à Leonardo. Et Leonardo le dirait à notre président, mais je ne le dirai jamais publiquement.
Ça, on avait bien compris, Timothée, qu'il ne va pas dire grand-chose, notre ami Mauricio Pochettino, que j'adore en demeurant.
Non, il faut pas s'attendre.
En communication, à mon avis, j'aimerais pas trop être à votre place qui allait faire les conférences de presse parce que.
Ça va pas être fracassant.
Voilà, tu vas pas passer un super moment quand même.
Non, mais on ne s'attendait pas nécessairement à autre chose pour cette saison. Étienne, justement, sur le fait que l'effectif soit bouclé, pour toi, c'est le cas, à part quelques départs peut-être, cet effectif, il est compétitif pour disputer les trois compétitions?
Ah oui, pour moi, franchement, déjà l'année dernière, on était compétitif, mais là, on en a encore plus. Et en plus, on a des joueurs qui ont un certain niveau en Ligue des Champions. Ouais. Je pense à Ramos, même si je pense qu'il va apporter énormément à nos jeunes, à ceux qui n'ont pas forcément l'habitude, et c'est très important d'avoir un joueur comme lui. Et je pense qu'avec des joueurs comme lui, comme Messi, franchement, là, on doit aller au bout. Hein. Il n'y a pas le choix. Maintenant, il faut la gagner, parce que si on ne la gagne pas aujourd'hui, Messi, quoi, il va rester quoi, un an, deux ans. On ne sait pas, il y aura qui derrière. Donc, je pense que cette année, il va falloir vraiment mettre le turbo, et il n'y a pas le choix, là. Il faut la gagner, cette Ligue des Champions. Enfin, ça, c'est mon avis.
Merci beaucoup, Étienne, en tout cas, d'être venu nous donner ton avis. Dis-moi, Étienne, t'as croisé Léo Messi ou pas? Parce que d'après mes informations, tu es en vacances à Barcelone.
En fait,
il est à Barcelone ce soir.
Voilà. Et ce soir, je suis à Barcelone. Je vais aller passer la journée à Barcelone et je dors là-bas. Et je vais voir le match dans un petit bar. Donc, non, j'ai pas croisé Léo Messi, mais franchement, j'avoue, j'ai charrié un petit peu les Barcelonais avec mon petit maillot Paris avec le 30. Ouais. Et il y en a beaucoup qui m'ont dit, vous avez trop de la chance. Franchement, je me faisais arrêter tout le temps, mais c'était plutôt bon enfant, j'ai envie de dire.
Profite du match avec une cagna et quelques tapas en écoutant Sangria, RMC, bien sûr. Ça, ouais, on compte sur toi et on compte sur toi pour le consommer avec modération, évidemment.
Toujours avec modération, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup.
Bonne soirée, Étienne.
Merci à toi.
Ciao. Hop. Merci Étienne d'avoir été avec nous. Jeannot, un dernier mot sur ce poste de gardien de but côté Paris Saint-Germain. Ouais. On est d'accord que pour le moment, il n'y a toujours pas, on va dire, de hiérarchie qui se dégage. Navas était disponible pour les deux premiers matchs. Donnarumma ne l'était pas. Aujourd'hui, il l'est, mais on peut l'imaginer à court de forme. En tout cas, le club n'a jamais communiqué sur un numéro 1 et un numéro 2.
Non, mais la question a été posée à Pochettino hier. Il a répondu, s'il est dans le groupe, c'est qu'il est compétitif, donc il laissait planer le doute, il laissait planer la possibilité d'eux. Après, le Tellier touché à une cuisse et Rico touché au dos, est-ce que c'est pas un peu aussi à cause de ça ou grâce à ça que Donnarumma s'est retrouvé dans le groupe pour venir à Brest et que dans les plans et du champion d'Europe et meilleur joueur du tournoi européen et dans l'esprit de Pochettino, c'était peut-être un petit peu tôt que de le mettre dans le groupe et par obligation il l'a mis dans le groupe, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il n'est pas titulaire et qu'on va patienter. Le problème, c'est que de toute façon aujourd'hui on est d'accord qu'on n'aimerait pas être à la place de Pochettino, parce qu'il se retrouve avec un Navas numéro 1 indiscutable depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain, et il y a eu l'opportunité de faire signer Donnarumma, et tout se passe déjà avant le championnat d'Europe et après ce qui se réalise lors de l'Euro. Il est évident que ça complique encore plus la tâche. Je pense qu'on va patienter encore un peu pour savoir si réellement il y aura rotation ou si réellement il y aura prise de position du coach pour un numéro 1.
Pour l'instant, Jeannot, tu confirmes qu'il joue avant-centre, notre ami Donnarumma, devant Navas là, pour l'échauffement.
Oui.
Il est en train de mettre des mines, ouais. Effectivement.
Il met des mines et il met des mines sérieuses. Hein. Je l'ai dans ma diagonale là, pendant que je parlais. J'en ai vu une ou deux là, elles étaient pas mal du tout. Mais bon, voilà, après, dans l'état d'esprit, on dit que ce garçon est plutôt bien à l'entraînement, que ça plaisante. En plus, il a beaucoup d'humour. Donc tout va bien. Après, quand on va rentrer dans le dur de la compétition, quand il va être au top de sa forme et qu'il y aura réellement la concurrence, ou alors,
ou alors il y a des choses que nous ne savons pas et qu'il y a eu discussion entre Pochettino et Donnarumma, Pochettino et Navas, et les deux ensemble avec Pochettino sur une prise de position. Je ne sais plus qui en parlait tout à l'heure en disant il y en a un qui va être titulaire en Ligue 1 et l'autre en Ligue des Champions. Peut-être qu'on aura droit à ça, peut-être.
M-31 avant le début de la rencontre. Pirates des Caraïbes est en train de retentir du côté de Francis Leblay. Nous, on revient dans un instant. C'était Shakira tout à l'heure, tu l'as entendu ?
Oui, t'inquiète pas. C'est dans
on revient playlist. Dans un tout petit instant pour continuer à parler de l'avant-match.
RMC Football Show, Timothée Mémon.
20h32, de retour dans l'avant-match, le match entre Brest et le Paris Saint-Germain. On est toujours avec Kevin Diaz, avec Frédéric Piquion, avec Jeannot Rességuier et Xavier Grimaud. Justement, un petit rappel pour ceux qui nous rejoignent, la compétition c'est la Ligue.
Et on peut commencer avec la compo brestoise, il n'y a aucune surprise avec le retour de Belkebla au milieu du terrain, c'est important, lui qui est l'un des cadres de cette équipe. Marco Bizot, donc dans les buts, le néerlandais, Jiri Uronen, le finlandais arrière-gauche, Chardonnay en défense centrale, Ronel, Pierre Gabriel arrière droit, milieu de terrain à deux avec Aris Belkebla et Yanga Mbok, et Erwin Cardona sur l'aile gauche, Franck Honora sur l'aile droite et Romain Fèvre qui sera en soutien de Steve Mounier.
Pour le Paris Saint-Germain, vraisemblablement un 4-4-2 en losange avec Navas dans les buts, Hakimi à droite, Diallo à gauche, toujours Kerrer et Kimpembe en charnière et donc Marquinhos sur le banc des remplaçants, Gay pointe basse, Verratti pointe haute, Wijnaldum à droite, Herrera à gauche. En tout cas, c'est comme ça que je vous présente la compo. Icardi et Mbappé en pointe. Voilà pour les choix de Pochettino. L'arbitre, c'est Eric Watteli.
Merci Jeannot. On va parler de cet épiphénomène qui va vraisemblablement devenir un phénomène, celui de la saison à venir, à savoir le Paris Saint-Germain on tour, les Harlem Globetrotters qui vont se déplacer un petit peu partout en France et qui vont forcément focaliser, cristalliser l'attention d'une région pendant le temps d'un match, d'un week-end. Ça risque d'arriver, on l'a dit, avant cette rencontre, on imaginait que Lionel Messi puisse faire son premier match pour le Paris Saint-Germain ici à Brest. Or, ça n'est pas le cas. Il y a des billets qui se sont vendus au marché noir jusqu'à 400 euros, nous disait Xavier Grimaud, des mises à prix jusqu'à 400 euros. On a confirmation en tout cas que certains billets sont partis à au moins 200 ou 250 euros. Première question, messieurs, on sera dans un instant avec François qui est responsable des supporters brestois, qui sera tout à l'heure, qui est d'ailleurs déjà dans la tribune Quimper, qui va nous rejoindre. Juste avant cela, messieurs, ça vous est déjà arrivé de jouer contre des équipes tellement énormes que vous aviez la sensation que vos supporters ne venaient pas vous voir jouer, mais voir jouer l'équipe adverse?
Bah écoute, bien sûr que ça arrive. Après
à quelle occasion? Quand l'Ajax venait par exemple?
Ouais,
ça m'est pas arrivé.
C'était plutôt le PSV Eindhoven pour le coup, mais tu vois, quand tu joues certains matchs, tu joues, je sais pas moi, en coupe contre une équipe de Ligue 1, si toi t'es au niveau inférieur, bah forcément l'équipe que tu reçois, elle a plus d'engouement. Mais maintenant, pour moi, c'est que source de motivation. Tu vois, c'est comme quand t'es dans le bas du classement, tu reçois le leader. Et ben, forcément, c'est de la motivation en plus. Et t'as qu'une seule envie, c'est de montrer que toi aussi, tu vois, un joueur comme Romain Fèvre, qui était, je crois, sur les tablettes du Paris Saint-Germain il y a encore quelques semaines, ben, il a qu'une envie, c'est de faire un énorme match. Parce que, comme Fred me l'a déjà dit, et moi, c'est pareil, tu peux très bien être recruté par un club parce que tu leur as mis la misère sur tel ou tel match. Donc, il faut briller.
Ouais, moi ça me. Après, j'ai peut-être pas de souvenir, mais en tout cas où j'ai pas fait attention. La seule fois où j'ai vraiment senti des choses un peu inhabituelles de la part des supporters, c'est peut-être le match quand on a fait. Je sais pas si t'étais là d'ailleurs, Timothée, mais le match amical qu'on a fait contre le Barça, même s'il y avait pas les.
Si, oui, absolument.
Joueurs, mais il y avait quand même Rony, il y avait quand même Ronaldinho, à Geoffroy Guichard, et voilà, t'avais senti quand même. Ouais, ouais. C'était quand même le bas, c'était quand même Barcelone. Mais après, à me demander, est-ce que, qui y avait vraiment de grandes stars à l'époque dans le championnat de France? Un truc de fou, hein.
Ouais,
à part Lyon qui était vraiment au-dessus, mais comme on sait, dans les années 2000, à Geoffroy Guichard, même si ils allaient pas voir Lyon.
Peut-être aussi que c'était, une autre époque aussi, et qu'aujourd'hui les gens se déplacent pour voir un footballeur comme on va voir une star, alors qu'avant on allait peut-être plus voir une équipe.
En l'occurrence, le problème c'est que là ils se sont déplacés, mais il n'est pas là. Ouais. Donc ça c'est encore plus énorme.
Il y a quand même Messi, pour le coup. Neymar,
ça doit faire marrer François, tiens, ça d'ailleurs, ceux qui ont acheté des places à prix d'or et qui ne sont pas là. Bonsoir François.
Bonsoir, salut Timothée, salut à tous.
Bonsoir François.
François qui est responsable de supporters brestois dans la tribune Quimper. Il n'y a pas trop de bruit autour de toi, tu t'es mis un peu à l'écart, on te remercie.
Ouais, j'ai essayé de me mettre. Alors je ne suis pas responsable des supporters, je suis responsable d'un podcast autour du Stade Brestois.
Très bien.
Mais ouais, j'ai essayé de me mettre un petit peu à l'écart. Je pense que vous allez entendre un petit peu de bruit, mais j'essaye de faire au
mieux. Mais c'est plaisir. Parfait, habituellement dans le COP, hein, c'est ça, habituellement
oui,
dans le COP Quimper.
Tout à fait.
Ok, tribune Quimper. Comment ça a été perçu le fait de voir certains abonnés revendre leur place comme ça? Est-ce que c'est quand on est un supporter de la première heure qui vient voir le Stade Brestois, peu importe l'adversaire, là en l'occurrence c'est le Paris Saint-Germain, comment ça a été perçu?
Je ne vais pas te cacher, ça n'a pas été très bien perçu, hein, surtout par les membres de notre tribune. Quand tu fais des déplacements en Ligue 2 à Niort, un petit peu partout dans la France, et que quand le Brest est un petit peu sous le feu des projecteurs, là tu vois des places, comme disait Xavier Grimaud, à 400-450 euros dans notre petit stade vétuste. Ça fait un peu mal au cœur, parce que je connais des gens qui auraient aimé être là ce soir, mais qui n'ont pas pu avoir de place, qui n'ont pas forcément les moyens de se les payer. Donc c'est très frustrant, mais ça, on a fait remonter justement au club aussi. Parfois, c'est des abonnés qui mettaient leurs cartes à revendre pour ce match. Donc évidemment, ça a été très mal perçu, même si on peut, sans hypocrisie, on peut comprendre un petit peu la démarche, mais ça passe pas trop.
Ça passe pas trop. J'imagine. Justement, tu l'as senti dans cette semaine, dans cette journée. Jeannot nous disait qu'il avait vu quelques maillots du Paris Saint-Germain dans les rues de Brest. C'est pour toi, c'est problématique. C'est symptomatique plutôt d'une période où les gens vont venir voir jouer une star plutôt que deux équipes.
Exactement, ouais. C'est symptomatique. Vous avez eu un débat dans l'after il n'y a pas très longtemps sur le joueurisme, justement. C'est quelque chose que je ne comprends pas. Après des maillots de Brest, honnêtement, dans la rue, en ville, il y en avait assez peu, quand même, pour ce match. Là, aux abords du stade, très peu aussi. Alors, il était interdit par le préfet. Je pense que ça a beaucoup joué aussi. Mais, cette question, cette idée du joueurisme, se déplacer pour voir un joueur, là, Patbol, Messi et Neymar ne sont pas. Donc, finalement, nous, ça nous a fait un petit peu rigoler aussi de voir les gens payer des places à prix d'or pour ne même pas les voir. Mais voilà, le joueurisme, franchement, vraiment pas fan de cette nouvelle tendance. Et ça se voit chez les très jeunes, hein, enfin, de par mon métier d'enseignant, je vois aussi.
Et tu sais, François, pas que chez les très jeunes.
Non,
hein,
pas que.
Parce que tu sais que moi, je suis adepte hein, de ce concept, adepte. Pas parce que je le suis moi-même, mais je veux dire, je suis complètement d'accord avec cette notion de joueurisme. Et je vais même plus loin, il y a même de l'entraîneurisme hein, avec Guardiola et à une époque avec Mourinho, un peu moins maintenant. Mais on va dire des mecs qui sont fans d'un joueur, d'un entraîneur, d'un concept comme ça. Mais après, comme tu dis, ça fait partie de la starification aussi à outrance du football qui a été exacerbée par notamment Cristiano Ronaldo et Lionel Messi qui ont vraiment vampirisé toute l'image du football, mais qui ont aussi tiré le football vers le haut, qui ont aussi rendu le football inconnu sur un niveau planétaire, et c'est peut-être aussi
les réseaux sociaux, Kevin.
Bien sûr, les réseaux sociaux, ouais, Fred a raison, les réseaux sociaux qui ont amplifié aussi ce phénomène. Maintenant, bon, moi, je veux quand même penser que peut-être que les abonnés on est quand même au mois d'août, et peut-être que les abonnés, c'est peut-être utopique, mais peut-être que les abonnés sont en vacances dans le sud de la France, François, et qu'ils ont tout simplement décidé d'en profiter pour rentabiliser une ou deux nuits d'hôtel, à Saint-Tropez.
Pour le Stade Brestois, mais en place, justement, quelque chose, une bourse à la revente pour les abonnés qui veulent échanger leur place.
Bon, pas d'excuses.
C'est mis en place sur le site officiel du club, en fait. Et là, c'est des gens qui passaient par des sites annexes.
Ah, okay. J'ai essayé de les défendre pour faire une plus-value. Je peux même vous dire, messieurs, que j'ai un témoignage de la part d'un club de Ligue 1 qui a déjà eu des demandes pour le match contre Paris, sachant qu'ils joueront contre Paris sur la seconde partie de saison. Donc pour des matchs qui auront lieu en février ou en mars.
Ah ouais, d'accord.
C'est juste
tu sais que pour le Barça, j'étais dans un club où il y avait des sponsors des fois qui organisaient des activités pour les joueurs avec du sponsoring, avec des délégués, des trucs comme ça, des dirigeants. Et d'une année sur l'autre, ils réservaient un voyage à Barcelone pour pouvoir visiter deux jours la ville et bien sûr assister à un match du Barça, puisque 10% des touristes qui se rendaient à Barcelone, c'est quand même incroyable, un chiffre exceptionnel. 10%
pour une ville comme Barcelone, c'est incroyable.
Pour une ville aussi visitée que Barcelone et aussi touristique, venaient en grand. Allez, en majorité pour voir Lionel Messi.
Ouais, venez pour voir le FC Barcelone et on peut l'imaginer en partie pour Lionel Messi. Pour Lionel Messi, c'est très juste. François, un dernier mot, un petit pronostic pour le match de ce soir.
un petit pronostic. Allez, on va être un petit peu chauvin, non, mais tout en étant un peu réaliste, je veux dire un partout, ce serait déjà une victoire presque pour nous, avec un petit but de Romain Feb pour faire plaisir à Kevin. Je sais qu'il l'apprécie, donc Gaëtan Charbonnier n'est plus là, on va passer sur Romain Feb.
Et en plus, je l'ai à MPG, ce serait génial. François, on te souhaite une très belle rencontre dans la tribune Quimper, qui est une des tribunes les plus drôles de France, je tiens à le dire. Je me souviens de quelques banderoles, je suis venu plusieurs fois dans le stade, quelques banderoles fameuses que je ne peux malheureusement pas citer ici, mais vous les retrouverez, hein, vous trouverez facilement sur internet. Vous
mettez, on connaît, c'est celle qui est derrière le but là.
Ouais, exactement, exactement.
On s'est un peu chambré là-bas.
Beaucoup de second degré, beaucoup d'humour, très britannique, mais très d'une certaine façon, et vous n'en êtes pas loin. Et très sympa. Merci François, on te souhaite un très bon match.
Merci.
Merci à vous les gars, bonne émission.
Et nous, on revient dans un instant, on continue à dérouler cet avant-match. On va parler de Brest. À quoi faut-il s'attendre côté brestois cette saison avec Michel Derzakarian sur le banc?
RMC Football Show, Dimo Témémon.
20h43, de retour dans le RMC Football Show. On continue à parler de cet avant-match qui va se dérouler à Francis Leblay, où se trouvent Jeannot Rességuier et Xavier Grimaud, qui sont en place. Il y avait les Daft Punk il y a une seconde. Tiens messieurs, c'était quoi votre musique favorite pour vous monter un peu dans les tours là avant les matchs, Fred?
Ah, moi j'écoutais beaucoup de dancehall, hein. Beaucoup de dancehall de chez moi, des Antilles, parce que c'est ça qui me mettait justement dans le bain avant les matchs.
Ça te détendait plus qu'autre chose?
Ah ouais, ça me détendait, c'était bien. Ou alors, quand on était dans le vestiaire de synthé, c'était du coupé décalé, hein, avec les Pascal et les...
Ah oui, avec Pascal
et avec les Pascal et les autres. Ah. Hein, c'est...
Et ça durait c'est jusque tard, en tout cas avec Pascal. Toi, je sais pas. Enfin, si, je sais. Kevin, c'est quoi?
Il raconte tout à la radio, mais c'est pas possible.
C'est quoi, toi, ta chanson pour te monter un peu le rythme là pour
nous c'était un peu ambiance anglo-saxonne, donc on avait plutôt, tu vois, de l'espèce de la Latin house, tu vois, donc ça, c'était pas moi qui étais le DJ du vestiaire, mais en tout cas il y en avait qui s'en chargeaient, et franchement il y avait de la bonne qualité de musique, et ensuite ça enchaînait après la victoire, tu vois, ça enchaînait dans les rues de Eindhoven.
Question que je me suis toujours posée, il y a une playlist dans les stades avant les matchs.
Mm-hmm. Est-ce que
les joueurs envoient au chapitre en disant on aimerait bien pour l'échauffement qu'il y ait ça ou ça? Non.
Moi c'était même des joueurs qui faisaient la playlist.
Ah oui.
Pour le stade.
Ouais, pour le stade.
Ah ouais, moi ouais. J'ai pas connu ça.
Jamais. Jamais.
Ah bah, on avait les bubbles.
Il y a donc il y a donc deux écoles. Messieurs, tout à l'heure dans un quart d'heure, c'est Brest-Paris-Saint-Germain. Xavier Grimaud est toujours avec nous depuis le stade Francis Leblay. On va peut-être commencer par toi, Xavier. On a vu le départ d'un entraîneur très joueur, Olivier Dalloglio, qui est parti à Montpellier. Il y a eu un échange, on va dire, de bons procédés entre Montpellier et Brest, puisque c'est Michel Derzakarian qui a rejoint le stade brestois. Michel Derzakarian qu'on avait eu pour habitude de qualifier d'entraîneur défensif quand il était à Nantes au début de ses années montpelliéraines, et puis qui l'année dernière avait eu une équipe un peu plus fournie, des Laborde, des Delors, des Savagnier, des Mollet, avait proposé un jeu un petit peu plus léché. À quoi faut-il s'attendre avec Derzakarian et cet effectif brestois? Il est vrai limité.
Alors, il faut s'attendre déjà à ce qu'on a vu sur les deux premières journées, donc c'est déjà une équipe, messieurs, qui sera toujours impeccable dans la mentalité, dans l'engagement. Pour l'instant l'équipe brestoise, elle court ensemble, et elle a pu faire des performances quand même assez bonnes, notamment à Lyon lors de la première journée. Donc déjà en général le cadre, il est posé assez rapidement avec Michel Derzakarian, et les équipes sont très cohérentes. Après Michel Derzakarian, il se défend toujours, hein, d'être un entraîneur défensif, hein. Il dit je ne demande pas à mon équipe de ne pas jouer, mais je leur demande d'abord d'être structuré et de bien se placer et de faire les efforts qui sont demandés pour avoir le fameux bloc équipe bien en place. Après, quand on regarde ses stats à Montpellier, 161 matchs avec la paillade, 63 victoires, 51 nuls, 47 défaites, 1,41 buts marqués par match. Alors c'est pas effectivement le plus spectaculaire, mais quand il a les éléments, comme tu l'as dit Timothée, à Montpellier, voilà, ses équipes ont de la liberté et sont capables de jouer. À Brest, il a des éléments offensifs qui sont capables de faire du jeu. Ça marche bien d'ailleurs. Franck Honorat est très bon depuis le début de la saison. On a vu Cardona marquer un joli but à Lyon. On a Steve Mounier qui est toujours quelqu'un d'intéressant. Romain Febvre également. Le truc pour Brest cette année, c'est que même Michel Derzakarian est inquiet de la profondeur de son effectif. Il lui manque 4 joueurs d'ici la fin du mercato. 4 joueurs, sachant qu'il faut bien savoir que Grégory Lorenzi, le directeur sportif, a été clair. J'ai une enveloppe de 0 euros pour recruter 4 joueurs.
Et bien justement, on écoute Michel Derzakarian à ton micro.
Je persiste et je signe. Si on fait pas 4 joueurs aujourd'hui, ça va être très 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 compliqué. de tenir une saison avec 17 joueurs pro. C'est très peu. Et dans les 17, je compte les jeunes pro. T'as pas d'argent, mais il faut qu'il y ait des prêts qui arrivent aussi. Mais il y travaille et on y travaille ensemble. Mais oui, c'est beaucoup, 4 joueurs. Ça paraît pas beaucoup, mais c'est beaucoup.
Ouais, il a l'air et on l'avait déjà eu sur RMC, mais il a l'air très très enthousiaste quand même d'être de notre ami Derrick Carignan. Hein,
chaque interview il est comme ça, c'est toujours le même ton, il y a pas de
franchement il a l'air vraiment d'être de prendre du plaisir.
À sa décharge, effectivement, ce ton un peu lénifiant de Michel Derrick Carignan, c'était le même la saison dernière quand l'équipe tournait bien. C'est pareil. En conférence de presse, je sais pas s'il masque une timidité ou si c'est quelque chose de sincère, Xavier.
Oui, non, faut pas se fier à ça parce que c'est quelqu'un dont le message passe très bien avec les joueurs. Jeannot le connaît un petit peu aussi. Et c'est quelqu'un qui est très intéressant quand on discute. Mais par contre,
d'accord, mais il y a un moment, Xavier, la communication externe, quand t'es entraîneur, il faut savoir la maîtriser. Oui, mais il faut savoir dégager quelque chose.
Tu es obligé de faire passer un message. Qu'il n'y ait pas d'argent, qu'il n'y ait pas ci, qu'il n'y ait pas là, quand t'es coach et que tu sais que t'as 17 pros, sauf, tu enlèves les gardiens, 17 professionnels de joueurs de champ, tu peux pas faire une saison. On va dire avec le maintien. Non,
mais normalement tu ne dois pas le communiquer vers l'extérieur. Pour moi, Jeannot, ça, je ne changerai pas d'avis.
Pourquoi ?
Ça, c'est de la communication interne. C'est pas de la communication externe. Je comprends pas.
Quand des coachs balancent dans les journaux des informations, ils mettent pas un coup de pression, ils sont pas reçus derrière et ils ont pas un peu gain de cause. Mais c'est vieux comme héros, ça.
Ben en tout cas, ce sera pas ma façon de
fonctionner. Ah, mais peut-être que c'est pas ta façon de faire.
Et je pense pas que ça aide le club que ce soit aussi connu du grand public pour négocier, pour recruter, de savoir que Brest est vraiment avec la tête sous l'eau, quoi. Et
qu'ils ont vraiment. Il faut pas taper sur Michel Derrick Carignan parce que Grégory Lorenzi lui-même a dit j'ai 0€ pour recruter. Donc il a déjà mis dès le départ les projecteurs sur le fait que Brest.
Si c'est le cas, qu'est-ce que tu veux faire ?
Ben voilà. Moi, je trouve que c'est bien d'être honnête. Grégory Lorenzi a l'habitude de cette situation et du coup va essayer d'aller chercher des prêts. Il avait réussi à avoir quelques prêts l'an dernier, Jean-Lucas au mercato d'hiver par exemple. Là on parle de Lucien Agoumé, les contacts sont établis, le jeune qui est à l'Inter, jeune de 20 ans. Voilà, va falloir faire des miracles pour le recrutement, mais Brest est un club qui a énormément souffert du Covid. Ils ont bien vendu Romain Perrault 12 millions d'euros à Southampton. Ça a permis de combler le trou financier pour tenir la saison, mais du coup il aurait fallu faire une autre grosse vente pour avoir une enveloppe pour recruter. Mais si on vend Fèvre 15 millions d'euros, on perd aussi un Romain Fèvre, donc ça n'a aucun intérêt.
Et les joueurs au PSG sinon aussi, hein.
Se faire prêter des joueurs du Paris Saint-Germain, tu veux dire? Ouais. Mais il s'était fait prêter des petits jeunes l'an dernier, Bandugu Fadiga, ça n'avait pas été terrible. Michel Desacarmi, il veut quand même des joueurs qui vont lui amener de la stabilité et un vrai recours sur le banc. Donc
il y a Marcelo qui cherche un club.
Ouais. La bonne blague. Mais tu as raison quand tu dis ça par rapport à la communication, Kevin. Mais moi je connais bien Michel Derrick Carignan. Quand il fait ça, c'est que peut-être il n'a pas été entendu quand il a négocié, quand il est arrivé. On lui a peut-être dit des choses et qu'il ne l'a pas obtenu et qu'il voit que la fin du mercato arrive et qu'il ne l'obtiendra pas. Donc ça, c'est de bonne guerre, on va
donc,
dire.
Donc toi, tu appelles ça comme tu veux. Moi, j'appellerais ça affectueusement sortir le parapluie.
Il sort un peu le parapluie, c'est une certitude. Michel Derrick Carignan.
Fred, en tout cas.
Fred, on a vu. Un Michel Derrick Carignan justement capable de faire sa mue avec cette équipe de Montpellier, longtemps taxé d'être un entraîneur purement défensif. Il a montré qu'il était capable de faire des choses, qu'il en avait l'envie.
Je pense qu'il a surtout qu'il n'a pas eu le choix. Parce que les joueurs qu'il avait en sa possession, que ça soit Laborde, que ce soit Delors, et d'ailleurs Laborde, je ne comprends pas qu'il n'y a pas un club français qui s'est mis sur lui. Mais bon, bref, ça c'est au passage. Maintenant, quand t'as un Mollet, quand t'as Savagné dans l'équipe, quand t'as Ferry dans l'équipe, tu vas pas leur demander d'être bloc bas et de faire
à quoi faut-il s'attendre, Fred, parce qu'on on voulait parler de Brest principalement.
Non, mais là il a pas le choix non plus. Là il t'a dit il lui faut 4 joueurs, donc déjà il rencontre le PSG ce soir, donc à mon avis ça va être un bloc bas. Et il va essayer de jouer les coups à fond, donc une transition rapide, essayer d'avoir Romain Fèvre qui soit bien placé, parce que c'est lui qui est vraiment, c'est vraiment un super joueur, moi j'adore, et c'est lui qui peut faire la différence offensivement et surtout mettre sur orbite Cardona ou même Honora.
Mais sinon, ça va être très compliqué quand même pour lui maintenant.
Mais le 11 de départ de Brest, il est pas,
ce soir,
il est quand même cohérent.
Il est cohérent. Hein.
Attention, t'as Marco Bizotte, c'est un très bon gardien. Peut-être qu'il n'est pas connu en France, mais c'est un bon gardien. T'as Steve Mounier, qui était quand même un joueur très régulièrement titulaire en première ligue. Derrière, t'as un jeune Tom Pèvre qui a du talent. T'as l'expérience avec Belkebla. Ouais, t'as une défense qui est quand même intéressante.
Tout le temps
avec
cette équipe-là, tu sais bien, il ne pourra pas aligner tout le temps cette équipe-là. Il y aura des suspendus. Il y aura des blessés.
Ce soir.
Ben oui, mais voilà. Donc ce soir, il a l'équipe qu'il faut. Ben, il a l'équipe qu'il faut ce soir. Et pour la saison, il a peut-être pas le groupe qu'il faut.
Non, ouais, je peux l'entendre. Il a pas l'équipe aussi pour faire le jeu. Même cette équipe-là, elle fait pas le jeu pendant la saison.
Ce sera peut-être effectivement un peu délicat. On va parier sur cette rencontre si vous le voulez bien.
Winamax, les meilleures cotes.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Et Romain Giraud, notre maître S-Paris, nous a rejoint. Salut Romain.
Salut Timothée, salut à tous.
Salut Romain. On va parier donc sur cette rencontre. 1,30 la victoire des Parisiens qui sont largement favoris. 6,30 le match nul. 10,50 la victoire des Brestois. Les Brestois qui sont la bête noire. Les Parisiens sont la bête noire des Brestois plutôt. Sur les 12 dernières confrontations depuis 2010, messieurs, 11 victoires parisiennes, un match nul. Brest n'a jamais gagné contre Paris. Et même plus, lors des 3 dernières confrontations, Paris a gagné avec au moins 2 buts d'écart, dont 2 fois 3-0. Alors je vais vous proposer une cote intéressante. Le PSG gagne le match sans encaisser de but, c'est déjà coté à 2,20. Et on ajoute le au moins 2 buts d'écart, ça passe à 4. Messieurs, qu'est-ce que vous en pensez, Kevin, Fred, faites vos jeux.
Oh bah sur mon pari de ce soir, j'ai mis que le PSG gagne les demi-temps. Avec plus de 2,5 buts dans le match et un buteur comme Mbappé.
Alors, magnifique my match proposé par Fred, 2,80 pour un match comme ça contre Brest, c'est plutôt pas mal, Kevin. J'ai fait mieux, moi, j'ai 4 hein, quand même.
Ah, pardon.
Qui dit mieux?
Excuse-moi.
Bon, écoute, si tu veux, j'ai mieux. Hein. Si tu veux, j'ai la victoire de Brest à 10. Hein,
mais, c'est pas mal,
mais bon.
Aussi.
Mais bon.
Non, mais Brest marque le premier but comme à 3 lors de la première journée à l'extérieur.
Et ça peut être.
C'est 3,80.
Ouais, ça peut être. Ça peut
je vais quand même tenter mon petit, une petite surprise avec le nul à la mi-temps et le Paris Saint-Germain qui s'impose en seconde.
Et c'est coté à 3,95, donc on quadruple la mise pour ce pari. Mais je suis quand même au-dessus, j'ai 4. Donc voilà.
Merci beaucoup, Romain, et bravo.
Winamax.
Faut que ça passe après.
Les meilleures cotes.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Jouer comporte les risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Et nous, on revient dans un instant pour le premier match de la troisième journée de Ligue 1 entre Brest et le Paris Saint-Germain. C'est sur le point de débuter à Francis Leblay. Restez avec nous sur RMC.
RMC Football Show.